feel good. I knew that I would not. So good, so good, I got you.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good. Toujours 30 minutes pour profiter des ondes positives de mon invité. 30 minutes pour aller à la rencontre d'une femme. Cette fois-ci, figurez-vous que c'est ma plus jeune autrice de bande dessinée que je reçois. Madame, mesdemoiselles, messieurs, elle vient de fêter ses 80 printemps et j'ai la grande joie d'accueillir Odile Foucault.
So good, so good, I got you.
Bonjour Odile.
Bonjour Christophe.
Première émission de radio, je crois.
Oui, ma première émission de radio.
Eh ben, sois la bienvenue, je suis très 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 heureux de t'accueillir parce que tu fais partie de ces femmes à qui je dois beaucoup. Tu t'es engagée fortement, on le verra tout à l'heure, tu t'es engagée fortement dans un mouvement associatif, il s'appelle le Mouvement Eucharistique des Jeunes, un mouvement d'éducation populaire. Et ça fait partie de ces mouvements qui permettent à des jeunes de se construire autant que faire se peut, bien sûr. Mais toi, tu y as donné avec ta famille beaucoup de temps et je voulais te dire merci pour cela. Je suis très heureux de t'accueillir parce que, au moment de tes... Et j'accueille en plus des jeunes étudiants. Venez autour de la table, ça sera mieux pour interviewer Odile. Au moment de tes 80 printemps, tu sors avec la collaboration de Christophe Carmona, une superbe BD, Les Aventures d'Aline, c'est une série. Dans cette série, dans ta famille, il y a une miette de vie de famille qui va être partagée dans cette bande dessinée que je montre pour ceux qui nous suivent en vidéo. Les Aventures d'Aline, miette d'une vie de famille, quel est ce projet, d'où il vient, Odile? Et qu'est-ce qui t'a pris à... après une vie belle et bien remplie, de sortir une bande dessinée?
Eh bien, en fait, le projet vient du fait que ma mère a rédigé ses propres mémoires d'une jolie écriture d'institutrice, manuscrit. Et lorsque j'étais en retraite, en 2005, j'ai entrepris la saisie informatique de ce document, de ce manuscrit. Et je l'ai illustré par... des photos d'époque, des cartes postales, des lettres, tout ce que j'ai pu trouver, de manière à faire un document où il y avait une page de texte, une page d'illustration. Et puis, ce document, Christophe peut vous le montrer, enfin, c'est un gros document de 200 pages. Et je me suis dit, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, qu'il fallait inventer une façon de le présenter à la nouvelle génération, que la nouvelle génération de mes petits-enfants ne lirait jamais ça. C'était trop gros. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas la bande dessinée? Alors, j'étais poussée un peu par ça, parce que j'ai une fille dans les Caraïbes, en Martinique, qui, avec son compagnon, a déjà sorti 2 bandes dessinées sur l'histoire de la Martinique. Et c'est l'histoire de la Martinique avant l'arrivée des colons. Et ils n'avaient aucune compétence pour faire la bande dessinée. Aucune. Si ce n'est l'envie de la faire et l'idée du scénario.
Et il n'y avait pas de raison qu'il y ait que ta fille qui fasse
et
ça.
Et donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas moi? Puisqu'ils sont arrivés, pourquoi pas moi? Et donc, j'ai eu l'idée de tirer une bande dessinée de ce gros document. Donc, j'ai entrepris la démarche. J'ai déjà imaginé un découpage en planche, un scénario. Ensuite, j'ai cherché un dessinateur. Donc, pour ça, j'ai utilisé Internet. Et puis, j'ai eu la chance que... au bout de quelques mois, un dessinateur m'a répondu. Je l'ai rencontré à Nancy, au festival de bande dessinée de la Malgrange. Et le courant est passé entre nous. Et voilà. Et ensuite, on a rencontré l'éditeur, qui n'a pas cru au projet, bien sûr. Et j'ai la chance d'avoir un frère qui a décidé d'avancer l'argent pour l'édition de la bande dessinée. Et voilà, donc cette bande dessinée, elle est là aujourd'hui et... Alors, je suis très contente.
Donc c'est un grain de folie, parce que c'est aussi une histoire qui se coécrit. Il y a l'histoire de la vie de ta famille, et puis il y a le projet de narration de l'auteur, du dessinateur Christophe Carmona, qui lui aussi est dans une série. Alors raconte-nous comment vous avez croisé, quelle est la série de Christophe Carmona et comment vous avez fait pour croiser les scénarios?
Christophe Carmona, il a inventé une petite jeune fille qui s'appelle Aline, qui a le pouvoir de voyager dans le temps. C'est une Alsacienne mais dont la maman a eu cet enfant avec un chevalier du Moyen-Âge qui lui aussi a le pouvoir de voyager dans le temps. Donc Aline, elle a hérité de ce pouvoir et comme Christophe Carmona a été sollicité pour dessiner des histoires de châteaux en Alsace, le château du Haut-Königsbourg, d'autres châteaux, l'histoire du musée Lalique, enfin beaucoup de choses comme ça, il s'est dit que pour le rendre plus ludique, plus accessible, eh bien, il allait mettre dedans sa jeune héroïne qui, avec son pouvoir de voyager dans le temps, va pouvoir raconter l'histoire du château aux différentes époques. Et cette jeune fille, ben, il lui arrive des mésaventures. Elle se retrouve dans des situations incroyables à différents moments de l'histoire. Et surtout, Christophe Carmona fait très attention à toujours l'habiller avec les habits de l'époque dans lequel elle se retrouve. Donc, elle a toujours des costumes incroyables qui sont, et donc c'est très amusant. Et de temps en temps, elle revient chez elle et ça fait des allers-retours entre le présent et le passé. Et ça donne de la vie à l'histoire.
Alors voilà, très brièvement raconté la rencontre, l'idée, la volonté. On va revenir après sur l'histoire de la famille. On va y revenir dans quelques instants, mais... Cette volonté, moi ce qui me touche dans ce que tu dis, c'est cette volonté de faire de la pédagogie. Et c'était, tu arrivais à ce moment de ton récit, quand justement trois étudiants sont rentrés, ils sont en stage en ce moment à la radio. Et je me dis, tiens, ça tombe bien, c'est un vrai clin d'œil, parce que une partie de ta vie, en tout cas ta vie professionnelle, c'est l'enseignement.
Oui, j'ai eu la chance d'être dans la première génération d'enseignants-chercheurs en informatique.
C'est-à-dire, tu fais partie des premières femmes.
Des premières femmes.
À Nancy.
Enseignants-chercheurs en informatique. J'ai terminé en 1968 des études de mathématiques où on a eu une initiation très légère à cette nouvelle science qui commençait, hein, qui était réservée.
En 68, on avait quand même déjà quelques notions.
Ah oui, il y avait déjà. Oui, j'avais déjà quelques notions. J'avais déjà programmé dans mon bac plus 5, hein, comme mon master 2, on dirait maintenant. Et puis, ça m'a passionnée. Et bien sûr, c'est l'époque où s'est créé de nombreuses formations à Nancy. Il s'est créé les IUT, il s'est créé les maîtrises informatiques, et puis ensuite l'AMIAGE, enfin tout un tas de formations en informatique se sont créées. Et donc, il a fallu créer des postes d'enseignants, et j'ai eu la chance qu'un professeur me propose un poste. À l'époque, c'était comme ça, on ne candidatait pas. C'était les professeurs qui choisissaient les élèves. Donc, c'était l'époque royale, et donc je me suis lancée là-dedans avec enthousiasme.
Alors,
j'ai toujours aimé la pédagogie, toujours aimé enseigner, toujours apprendre, puisque j'ai toujours appris, puisque l'informatique évoluait tout le temps, donc il fallait toujours nous apprendre peu de temps avant les étudiants ce qu'on allait leur enseigner.
Du coup, ce goût pour la mise à jour des données, elle est permanente et elle t'habite encore aujourd'hui, parce que quand je... tu m'avais évoqué, tu viens de me le confier aujourd'hui, l'ouvrage que tu avais réalisé au moment à l'arrivée en retraite, c'est effectivement 200 pages. C'est effectivement 200 pages, mais c'est déjà plutôt sympathiquement illustré. C'est une page sur deux qu'il faut lire.
Oui,
quoi.
Une page sur deux illustrée. Oui.
Et c'est quand même la vie de famille. Donc on peut se dire que bon, ça peut se lire, on va prendre le temps, mais ça peut se lire quand même. Quoi. Mais toi, tu vas plus loin parce que tu te dis aujourd'hui, et pas forcément... je n'entends pas, c'est pour ça que j'avais envie de t'avoir dans l'émission I Feel Good, parce que pas forcément avec nostalgie ou avec regret, tu dis mais il faut que je crée d'autres outils pour pouvoir faire passer mon message, d'où la bande dessinée, ce goût du feel good, ce goût de toujours regarder le verre rempli ou à moitié rempli en tout cas, mais pas vide en tout cas, pas cet aspect-là. Tu le cultives d'où cette
ouais, j'aurais du mal à le dire, mais j'ai toujours aimé lire, toujours aimé les nouveautés. J'ai toujours été attirée par les inventions. Voilà, donc je ne sais pas trop dire de quoi ça vient.
Dans la famille ?
Dans la famille.
Du côté de chez Jeanne Fossier ?
Non, mais ma maman était une institutrice, donc ouais. Elle aimait beaucoup ses élèves, elle aimait transmettre, elle aimait l'histoire. Donc elle nous a beaucoup transmis oralement. Et les grands-parents aussi, on était dans une famille où il y avait beaucoup de transmission. Des fois, ça nous saoulait d'entendre raconter la guerre 14. On en avait un peu marre. Et finalement, des fois, maintenant, je regrette. Je dis, j'ai pas tout écouté, j'en ai loupé. Mais voilà, c'était comme ça.
Alors, ce récit que tu as proposé à Christophe Carmona, il repose sur quel bout de vie, sur quelle séquence de vie où ? Dresse-nous un petit peu le cadre.
On a choisi la période 1870-1970 dans l'Est de la France. Parce que ça commence dans la Marne, parce que mes parents sont originaires de la Marne. Ensuite, j'ai un grand-père qui vient habiter à Nancy. Ils sont restés à Nancy, ma mère est née à Nancy, et ils sont restés à Nancy pendant 30 ans, jusqu'en 1941. Et en 1941, les hasards de la vie ont fait que ma mère a épousé quelqu'un du village dont ses parents étaient originaires. Et donc, elle est repartie dans la Marne, et mes grands-parents l'ont suivie. Et donc,
Ah, dis donc, c'est un aller-retour, alors.
C'est un aller-retour dans la Marne. Et moi, quand j'ai eu 18 ans, pour choisir où j'allais faire ma classe prépa, eh bien, j'ai choisi Nancy, parce que mon frère aîné était à l'école des mines de Nancy. Donc, j'ai dit, je ne vais pas aller faire une prépa à Paris, je vais aller à Nancy. Et depuis, je suis toujours restée à Nancy. Donc, il y a un attachement à Nancy, dans la famille, comme ça.
D'accord. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il y a comme fait marquant de ces miettes de vie, justement, entre 1870 et 1970 ? Quelles sont les 3-4 date qui te semble importante dans cette vie de jeune Fossi, ta maman, mais aussi de sa famille.
De la famille. Ben, il y a déjà je crois que c'est le 2 septembre 1870, le jour où les Prussiens, c'est comme ça qu'on appelait les Allemands à l'époque, hein, ont envahi le petit village où vivaient mes arrière-grands-parents. Et c'était le jour de la naissance d'une grand-tante. Et les Prussiens ont voulu venir loger chez eux. C'était comme ça, ils allaient loger chez les habitants, les officiers. Et ils sont repartis, ils ont dit non, on ne va pas attendre un brailler à un bébé toute la nuit. Donc, c'est une date.
Donc, cette grande tante, on lui doit beaucoup.
Voilà, on lui doit une référence historique. Ensuite, eh bien, j'évoque l'enfance, comment se déroulait l'école entre 1870 et 1905 avec l'arrivée de l'école obligatoire, la loi Jules Ferry. Et puis, ensuite, la loi de séparation de l'Église et de l'État. Qui a fait que mon propre grand-père, son père, lui a interdit d'aller à l'école normale d'instituteur sous prétexte que c'était trop laïque. Donc ça, je le cite, j'ai rien contre les écoles normales, mais c'est un fait historique, fait de société. La France était divisée au moment de la loi du 1905, on en parle encore un peu maintenant.
Ah oui,
Et puis alors, une autre date importante après, c'est...
En fait, les 120 ans, justement. Donc,
oui, c'est les 120 ans de la loi de 1905. On en parle beaucoup. Je ne sais pas si vous faites étudier ça en histoire, les uns ou les autres.
Elle reste quoi, elle a trois étudiants en face d'elle, et voilà. Elle s'adresse à eux. Ça, il n'y a rien à faire, on dit là. On a aussi quelques auditeurs qui nous écoutent, et auditrices.
Voilà, donc ça doit leur parler aussi. Et puis, deuxième date importante, c'est le début de la guerre 14, parce que bien sûr, c'est toujours l'esprit de famille. Quand la guerre 14 s'est déclarée, ma grand-mère habitait Nancy avec sa petite-fille de 2 ans. Et quand la guerre se déclare, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se réfugie chez ses parents dans la Marne. Et une fois arrivée chez ses parents dans la Marne, les Allemands arrivent, donc elle va à Reims. Et je crois que je ne sais plus si c'est le 2 ou le 8 septembre. Elle assiste à l'incendie de la cathédrale de Reims. Donc, ça fait référence aussi depuis l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. On voit le choc que provoque l'incendie d'une cathédrale. Et ma grand-mère, de la fenêtre où elle était, je sais le numéro de la rue, le numéro dans la rue où elle était. Donc, j'ai pu faire dessiner la cathédrale dans le sens où elle a vu, comment elle a vu tomber le clocher à l'ange. Et donc, ça en 14. Et c'est représenté sur la couverture. C'est la cathédrale de Reims
qui
et
brûle.
Non pas celle de Paris.
Et justement, la transition est toute faite puisque c'est l'heure de la pause, Odile. Tu es vraiment, tu es vraiment raccord, tu es faite pour faire de la radio puisque c'est l'heure de la pause. C'est l'heure d'écouter le choix musical que tu as retenu. Pourquoi, Vianney ?
Parce que c'était un peu en référence aux cathédrales qui renaissent et c'est l'avenir et c'est un peu ma tendance, toujours être optimiste, pas regarder en arrière.
Un jour une dame a dit d'accord, donnez vos larmes, j'en ferai de l'or. On raconte quel sommeil en chacun de nous. Elle n'a pas d'âge et son visage importe moins que son message. Un jour viendra le temps de l'Alléluia. Alléluia. Alléluia. Un jour la dame a dit d'accord, je prends les flammes mais pas la mort. On raconte qu'elle a fait son refuge en nous. Après l'effroi, vint le soleil, et la revoilà de ses merveilles. Il est venu le temps de l'Alléluia. Alléluia. 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 La dame dit, voulez fort garder la paix comme un trésor. On raconte qu'elle est belle mais fragile comme nous, qui abandonne et déjà mort, mais qui espère, respire encore. Et le monde attend le temps de l'Alléluia. Alléluia. 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 Alléluia.
Vianney, qui a interprété Alléluia à l'occasion de la Renaissance de Notre-Dame de Paris. Des renaissances, il y en a. Et nous en vivons aussi avec Odile, qui nous partage sa vie de famille.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Ah oui, c'est chouette. C'est une renaissance aussi, c'est une naissance en tout cas de ces ouvrages, de ces miettes de vie, comme tu dis, oui. Comme disait ta maman en l'occurrence, de passer de l'écrit, on a le récit de 100 pages et aujourd'hui on a la bande dessinée. C'est quand même extraordinaire. Ça génère quoi dans ta famille, dans ceux qui ont lu cette bande dessinée?
Ah ben beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions de la part de mes frères et sœurs, puisque j'ai quand même 7 frères et sœurs. Et puis ma grand-mère, enfin ma mère a eu, je crois, ses 25 petits-enfants, et maintenant il doit y avoir 52 arrières. Donc c'est toute une famille qui a reçu cette bande dessinée, et ça suscite beaucoup d'émotions et beaucoup de plaisir de voir comme le dessinateur a très fidèlement représenté les personnages à partir des photos que je lui ai fournies. Parce que j'avais même des photos de mes arrière-grands-parents, donc il était très étonné d'avoir autant de photos de famille. Voilà, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et puis, actuellement, bon, on la distribue dans le village. Il y a des personnes qui ont eu ma maman comme institutrice et qui aussi la retrouvent avec beaucoup d'émotions, des cousins, enfin, etc.
Et tout ça, c'est quand même une belle histoire que tu nous racontes là, parce que c'est quand même... moi, je salue aussi, je ne le connais pas, mais le Christophe Carmona, d'avoir su écrire une série en s'inspirant pleinement, et vous avez fait une belle rencontre, j'ai l'impression, quand même, pour pouvoir adapter... et être fidèle à un récit, pouvoir lui l'embellir de sa force narrative et sa force de dessin aussi, surtout. Enfin, voilà, c'est une belle rencontre. Et puis ça permet de faire vivre une histoire de famille, une histoire d'un village. Tu le disais aussi, c'est aussi un fait un peu sociologique, cette bande dessinée, parce que c'est la vie comme elle était à l'époque, c'est les points de vue comme ils étaient à l'époque, c'est pouvoir poser un regard sur comment on percevait la vie, le quotidien.
Oui, c'est pas uniquement ma famille, c'est-à-dire que c'est aussi la vie en société aux différentes époques. J'ai insisté là-dessus. Sont évoqués par exemple l'exposition universelle de 1900, qui a été quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc on a parlé de l'école, hein, puisque ma propre mère a fait l'école normale de Nancy. Donc j'ai une planche là-dessus avec un petit clin d'œil sur la différence avec aujourd'hui, puisque les institutrices étaient mises devant des classes à 18 ans, les instituteurs aussi. Hein. Et donc, on les mettait en responsabilité à 18 ans devant des enfants. Maintenant, on attend 23 ans. Est-ce qu'on a raison? J'en sais rien. C'est une question qu'on peut se poser. Et puis après, j'évoque aussi les difficultés de l'après-guerre en 1945, les difficultés économiques et la création des associations familiales rurales. Parce que mon père avait créé une association familiale rurale dans le village pour entraider les personnes. Et ça a ému aussi beaucoup les responsables aujourd'hui de l'association, de voir que j'évoquais cet aspect de la vie en société après 1945.
Alors, tu n'y couperas pas, ma chère Odile, hein, mais tous mes invités, oui, ils ont le droit de partager trois dates importantes dans leur vie. Toi, tu as partagé un peu celle de ta famille, là.
Oui.
Voilà. Et les tiennes, Odile. C'est quoi tes trois dates?
Allez, on commence par la première. Moi, j'ai mis le 10 février 1970, puisque c'est la naissance de mon premier enfant. Voilà, donc c'était vraiment la naissance du premier enfant, c'est le début d'une vie de famille, c'est très, très important. Ensuite.
Hop, oui, on va prendre le temps. Non, bah oui, on va raconter un tout petit peu quand même, parce que sinon c'est un peu trop facile. Donc, ça, c'est bienvenue à Alix qui aura des frères et sœurs.
Voilà, alors après, il y a eu Lucie, Jean-Baptiste, Élise, Jean-Yves et François-Xavier. Voilà.
Donc voilà, ça c'est la famille Foucault, puis c'est aussi un mari alors du coup.
Oui, un mari Jean-François qui malheureusement est parti en 2022 et qui m'a soutenu beaucoup. Pour m'aider, pour m'encourager à continuer à travailler et puis pour m'aider dans les activités associatives. Même s'il n'était pas souvent là, présent au MEJ, il faisait les transports en voiture, ouais, les découpages de matériel. Voilà,
il y avait l'intendance qui était assurée aussi.
Voilà, l'intendance et les courses.
Voilà, donc ça, c'est cette vie de famille. Pour tout dire à nos auditeurs, tu avais proposé un autre titre de musical, c'était Le Chasseur, parce que ton mari était chasseur avec cette belle tradition de la chasse.
Oui, il était chasseur, mais comme je te le disais, un peu un chasseur comme le chasseur de Michel Delpech, c'est-à-dire que c'était plus pour se promener dans la nature et avoir l'occasion de voir du gibier, voir des choses, être au plus près de la nature et pas tellement pour tuer. C'était pas cet aspect-là qui l'intéressait.
Avec la pipe.
Voilà.
Aussi.
En fumant sa pipe.
Voilà, donc ça, c'est la famille Foucault, c'est six enfants, c'est l'effervescence en permanence. Deuxième date importante dans ta vie, le 11 juin 1982.
Alors, le 11 juin 1982, j'ai soutenu ma thèse d'État. Alors, la thèse d'État, c'était le plus haut diplôme que l'on pouvait passer. Maintenant, ils l'ont remplacé par une thèse tout court. Avant, il y avait deux thèses, une thèse de troisième cycle et une thèse d'État. Et la thèse d'État permettait d'accéder au grade de professeur des universités. Donc, j'ai mis du temps pour la soutenir, parce que les enfants, ce n'était pas simple. Mais comme j'avais mon caractère, j'ai tenu à aller au bout. Et puis, je l'ai soutenue et je suis devenue professeure. Et j'ai eu un peu de mal avec certains membres masculins du jury, je peux le dire maintenant, mais qui me disaient « Mais Madame Foucault parlait donc le langage de tout le monde. » Alors je disais « Mais le langage de tout le monde, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. » « Mais parlez en mathématiques, en langage mathématique, comme ça on vous comprendra. » Donc j'ai refait un chapitre entier de mathématiques qui avait pas grand-chose à voir avec l'informatique de gestion, pour lui faire plaisir. Voilà un exemple bon, de ce qu'il faut faire pour obtenir son diplôme.
Voilà, bon, bah, fallait respecter le contrat. Quoi. Voilà, c'était pas, oui. Le but n'était pas forcément la pédagogie, mais le savoir.
Non, c'était respecter les désirs des rapporteurs.
Alors, de cette carrière au sein de l'université, au sein de l'informatique, tu as suivi la montée en puissance de l'informatique, en particulier au Miage, bien évidemment.
Oui, quoi, voilà. J'ai terminé ma carrière donc à la Miage, à l'université, on disait 2 en 6, 2 dans le temps, et à l'ICN, à l'école de commerce. Et pour vous amuser, par exemple, au début d'Internet, au début des mails, ben, je prenais les étudiants de l'ICN en travaux dirigés et je les faisais leur envoyer des mails entre eux pour qu'ils comprennent ce que c'était.
Ouais.
Donc c'était très très...
Et ça c'était quand ça?
C'était dans les années fin 90.
Ouais, ouais.
C'était vraiment... on avait l'impression au début qu'Internet c'était pour les chercheurs, et puis il a fallu, c'est les dirigeants de l'école de commerce et puis les dirigeants de la Miage qui ont compris que ça allait aussi servir aux entreprises, mais on n'avait quand même pas imaginé l'ampleur que ça prendrait. Que ça arriverait au commun des mortels, aux personnes de tout âge, on n'avait pas imaginé à fond ce développement-là.
Alors, j'avais pu penser qu'on allait trouver un dessinateur de bande dessinée comme ça.
Voilà.
qu'est-ce qui t'a surpris dans l'informatique, dans l'arrivée de l'informatique dans la société, ou qu'est-ce qui t'a marqué?
Ben, ce qui m'a marqué, c'est justement ce côté un peu envahissant. C'est-à-dire que ça a commencé par les chercheurs, après les entreprises, en commençant par les banques, bien sûr, qui avaient les comptes à gérer. Donc, c'était des opérations toutes simples. En fait, des plus ou des moins sur des comptes en banque, c'est quand même pas compliqué. Et puis après, ça a envahi les entreprises pour gérer le personnel, gérer les payes, gérer les commandes. Donc, ça, c'était assez envahissant. Et puis après, c'est l'arrivée au grand public. Ce qui fait que maintenant, l'arrivée de Wikipédia, qui fait qu'on trouve des informations sur tout, si on a envie de chercher, quoi. Et qu'il faut parfois contrôler, mais ça qui m'a surpris, c'est l'ampleur que ça a pris.
Troisième date importante, c'est la fête de l'expérience, c'est le 20 mars 2025. Pardon.
Alors, 20 mars 2025, j'ai eu la chance de fêter mes 80 ans avec tous mes enfants et tous mes petits-enfants, et je leur ai remis en surprise la bande dessinée à chacun. Voilà.
Donc, sacrée belle surprise de part et d'autre. Hein.
Ouais.
Odile, l'émission se termine, mais je voulais savoir quel est ton futur projet?
Ah ben pour l'instant, mon projet, c'est de commercialiser la bande dessinée, parce que j'ai lu sur Internet qu'il fallait déployer autant d'énergie pour la commercialiser que pour la faire. Donc voilà, je suis là, je le fais.
Merci Odile d'avoir pris le temps et de nous avoir partagé ce bout d'histoire, ceux de ta famille, puis ce bout d'histoire aussi qui est la tienne. Merci Odile. Un petit coup de pub aussi pour une ancienne invitée, Véronique Dikipar. Vous savez, c'est elle qui était partie en Afrique et qui a eu un coup de cœur là-bas et qui souhaite donner un coup de main pour un orphelinat. Écoutez l'émission, vous verrez, c'est touchant. Et elle souhaite donner un coup de main et elle organise une grande brocante kermesse le 7 septembre. Pour cela, elle aurait besoin de quelques lots. Alors si vous avez des bonnes idées, on se contacte via les réseaux sociaux sur RCN et ça sera un petit coup de main qu'on pourra donner à Véronique et son beau projet pour le Togo. Odile, encore un grand merci. J'en profite pour faire un gros bisou à toute la famille Foucault, leur dire toute l'amitié que j'ai pour eux. Et puis, je t'embrasse très fort, Odile. Merci.
Merci, Christophe.